Les filles.
Sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes.
De Jean-Paul Sartre. Parce qu'en fait, il y a un jeu de mots. C'est ça qui est vachement rigolo en fait.
Bah, une émission caustique.
Le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux filles de Jean-Paul Sartre, votre rendez-vous dominical mensuel, désormais traditionnel, au même titre que la messe, les viennoiseries et l'émission d'accordéon. Et quand même, le dimanche est devenu bien plus fun depuis nous. Avant, on faisait quoi le dimanche à 13h? Bah, au mieux la grasse mat, au pire un repas de famille. Alors réjouissez-vous camarades, maintenant c'est grasse mat en nous écoutant à la radio le premier dimanche du mois. Ou ensuite, les trois autres dimanches, en podcast, ou sur Deezer ou Spotify. Et ça vous fait sécher les longs poulets frites avec beau papa. Pff, elle est un petit peu longue cette intro. Bonjour bah, Mélanie.
Surtout, bonjour, ça manque de chansons.
Attends,
on n'en peut plus, on est là, on attend.
Bah, la petite nouveauté, c'est que là, ça va être en fin de lancement.
Oh, voilà, oh là là.
Bon, on va écraver mon truc, c'est pas grave. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Sandy qui est notre invitée exceptionnelle en provenance de Rennes. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'avec son réseau Amicalo professionnel, nous allons à minima quadrupler notre audience habituelle, qui était déjà pas dégueu. Hein. Donc ça nous met une petite pression. Un mois que vous bossez vos questions, hein, comme la petite staccanoïste que vous êtes, Mélanie.
Mais bien sûr, moi depuis, bah, ça fait 3 semaines, hein, depuis que je suis Sandy, notre invitée, jour, nuit, je révise tout.
Du boulot.
Que je n'arrête pas.
Bon, comment vous allez, vous?
Ah ben moi, formidablement bien. Hein. Okay. De toute façon, mois de mars, c'est le printemps, c'est le bonheur, c'est le renouveau. Hein.
Parfait, je crois que vous aviez dit exactement la même chose.
Mais oui, parce que j'attends qu'il arrive. C'était le mois dernier. Mais c'est pas grave. Je sais que vous me réécoutez tous les dimanches, moi personnellement, c'est pour ça.
Et tous les autres jours de la semaine. Et vous, Sandy, comment allez-vous?
Eh ben très bien, ma foi, je suis ravie d'être là, ah. Et vous?
Ça nous fait plaisir. Bon, moi, je l'annonce, après 6 mois de pluie, je commence légèrement à péter les plombs. Sandy, il faudra me dire comment vous faites pour se vivre en Bretagne hein, depuis toutes ces années. Car moi, mon corps dit stop. Et vous savez comment mon corps dit stop? Eh bien, il gonfle et il fait de l'urticaire. C'est dommage.
Vous faites de la rétention d'eau, voilà. En fait. Trop d'humidité.
Oui, nous ne sommes pas diffusés à l'antenne. C'est bien dommage, vous verriez mon visage. Voilà, ça, c'est le résultat du réchauffement climatique. OK, la montée des eaux. OK, la fin des Maldives. OK, les cyclones, les orages. Mais ma gueule rouge, là non, ça va trop loin là, je dis stop, stop la pluie, stop le gris, amenez-moi de la lumière, alléluia. Laissons, entrer le soleil, laissons.
Wouh, wouh, waouh, là là là.
Vous n'avez pas eu la gestuelle, mais je m'y croyais là.
Ah là, c'était beau, il y a eu un petit rayon de soleil, là je l'ai vu, là sur Radio Alpaca, il ne manque plus que Jean-Yves qui passe, et là ça le bonheur. Jean-Yves, on t'attend. Normalement, tu arrives oui. Entre 14h et 15h le vendredi.
Et on est dimanche.
Et on est dimanche. Mais cet homme, en fait, il pète le vendredi, le dimanche, tous les dimanches à 13h. On ne sait pas. C'est incroyable. Merci, hein, Christine. Parce que... Donc, comment allez-vous à part ça?
Malgré la maladie et cette crise d'urticaire, hein, je découvre ça à 48 ans qui m'habite depuis une semaine.
Par contre, ces mots ne vont pas ensemble.
Oui. Et là, j'ai l'impression de cuire comme un petit œuf sur le plat en permanence. Mais écoutez, à part ça, vraiment, vous l'entendrez dans ma chronique, bah, je pète la forme.
Il me semble que vous avez déjà dit ça le mois dernier.
C'est possible.
Bienvenue, Sandy.
Et ben
voilà,
merci.
Mais écoutez, comme maintenant, traditionnellement, pour cette année, j'ai l'impression que me revient l'honneur de présenter notre invité aujourd'hui. Donc, chères auditrices et auditeurs, bonjour. Et comme à chaque émission, et c'est tant mieux, nous sommes ravis d'accueillir notre invité aujourd'hui, Sandy Sénéchal, qui, comme souvent chez nos invités, a 1000 casquettes, ou plutôt 1000 lunettes. Évidemment, cette pseudo-blague ne peut être comprise que si et seulement si vous aviez la chance de la voir. Outre Christine, hein, dont on a compris que c'est un phénomène aujourd'hui. Donc on aimerait bien voir Sandy, c'est avant tout une femme créative et de création. Et cela commence par son look qu'on ne peut ignorer. Elle ne s'habille que de rouge et de noir, ne se maquille que de rouge et en noir, ne porte que des lunettes rouges ou noir, ou peut-être les deux, je ne sais pas si ça existe. Enfin, etc., etc., vous avez compris. Et non, malheureusement, car on aurait adoré aussi, vous n'êtes pas la présidente du Jeanne Masse Fan Club officiel, qui existe bien sûr, dont j'ai appris, Chris est a priori la présidente de Facebook. Mais pas vous, on ne peut pas tout faire dans la vie, malheureusement, j'aurais bien aimé que
vous soyez. Écoutez, vous seriez peut-être surprise.
Oh, une vie cachée, une passion cachée. Alors, quelle peur souhaitez-vous vous affronter, cher Sandy. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, merci Christine. Allez, improvisation, poussez la chansonnette.
En rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'ai toute la compile.
Donc peut-être que c'est bien vous. Donc, quelle peur nous cachez-vous ? Celle de la caméra qu'on pense avoir allumée alors que c'est la fin de la séquence ? Bon, ça, c'est un peu moi, j'avoue. La page blanche du scénariste, l'épingle laissée dans un costume de scène ou encore un gamin qu'on gifle en atelier car il l'a bien cherché. Ou juste vous, qui êtes une de ces passionnées absolues des faits divers, vous en êtes trop gavée et vivez désormais dans la peur et peut-être la fascination de rencontrer un serial killer dans les rues de Rennes. Mais peut-être n'est-ce pas une peur, mais un combat type anarcho-syndicaliste en hommage à un aïeul espagnol ? Ou juste rouge et noir, car ça simplifie la vie ? Telles sont toutes ces questions qui m'habitent rien qu'à votre look. Et on a hâte d'en savoir plus, cher Sandy, sur tous ces métiers du spectacle que vous connaissez et que vous pratiquez à longueur de journée et d'année, ou comme dirait Christine, en off, sur cette vie de saltimbanque. Merci.
Bravo.
Et on vous félicite.
Franchement, Mélanie, votre plus beau lancement depuis que nous faisons de la radio ensemble. Et vraiment, je le pense, du fond du cœur.
Je pense qu'on va lancer votre tube et je le pense du fond du cœur. C'est vraiment pas le meilleur. Mais en lien avec l'actualité.
L'amour et le soleil séparèrent. Il est mort le soleil, mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier, pour moi, il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. S'habille de gris. Hier, la couleur. Soleil, c'est pareil.
séparait.
Moi, je dis waouh.
Seul.
Ouais, j'ai préféré enchaîner parce que. Alors moi, je vous explique là, ça va beaucoup mieux. Pop, 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 j'ai retrouvé une patate. Merci ah ouais Christine.
J'y ai cru en plus.
C'est bien, c'est beau. Ok, on comprend la thème de ce choix, mais enfin, on n'était pas obligés de tous penser que.
Non, mais de toute façon, chaque mois, je me prends des tombereaux d'insultes avec mes choix musicaux, et sachez que personne ne me fera taire, et je ne reculerai pas. Bravo. Devant la grande chanson française, que je continuerai à mettre à l'honneur.
Moi, c'est surtout l'emploi du mot tombereau qui me fait du bien. Bon, merci beaucoup.
Et oui.
Sandy, on va enfin, hein, d'habitude, comme on l'a dit, hein, ça fait quand même la deuxième fois qu'on laisse plus de parole à l'invité.
Oui, bah pas pour l'instant, mais enfin, là, on va le
non,
faire.
Non, justement, on hésite encore, en fait. Ouais. On fait quoi? On fait ou il laisse, on ne laisse pas. Allez, question, c'est parti pour l'interview. SQNT.
Ah mais oui, c'est
mais
vrai.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on
est-ce
a
que vous savez Sandy ce que ça veut dire SQNT?
Bah ouais, parce que j'ai déjà écouté l'émission.
Ah
wow. Très bon point.
Elle est fan. Elle est fan, c'est génial. On a un club, il paraît maintenant. Vous pouvez peut-être adhérer.
Bien sûr. Il y a des pages.
C'est
sur
Chris
les
qui a lancé un club.
Moi, j'aime
un fan club sur Facebook. Ben quoi ?
Eh ben.
Ah, c'est moi qui commence.
Bah, je sais pas.
Alors, on a admiré le lancement de Mélanie, mais on aimerait quand même en avoir, bah, comprendre les mots derrière toutes ces petites formules. Donc, Sandy, si tu pouvais, je me permets de te tutoyer.
Oui, oh là là,
car on est jeunes. Si tu pouvais nous expliquer en quelques mots tes multiples casquettes professionnelles pour l'instant. Après, on parlera faits divers, passions communes, mais pour l'instant, parle-nous de tes casquettes professionnelles.
Ok, alors bon bah moi je suis scénariste et réalisatrice de fiction, mais bon ça c'est plutôt aussi un objectif qui ne me fait pas gagner ma vie, donc forcément je fais plein d'autres métiers à côté. Alors je peux être vidéaste pour une compagnie de théâtre, je peux être aussi costumière sur des tournages. Je suis même aussi décoratrice en événementiel. Je fais pas mal d'ateliers aussi en milieu scolaire, voilà, autour de plusieurs thématiques, les fake news et travailler sur les discriminations, tout ça.
Les faits divers, non ?
Pas encore. Les faits divers, non, ça c'est mon petit plaisir personnel.
Est-ce que vous ne seriez pas vulgairement ce qu'on appelle une intermittente ?
Mais complètement.
Une feignasse d'intermittente ?
Exactement.
Une saltimbanque ?
Exactement, voilà, qui profite du système, oh là, vous voilà, êtes, évidemment.
Vous n'êtes pas la première qu'on reçoit. Hein.
Non.
Ça fait la troisième.
Ils ont le temps,
oui,
hein.
C'est
mais
ça,
c'est ça, le dimanche à 13h, ils sont là,
bien
quoi.
Bien sûr, on a, bah oui, on
mais merci d'être là pour nous.
Pour gagner plein d'argent, hein, c'est bien.
Alors tu dis, Sandy, je suis scénariste... réalisatrice, mais ça ne me fait pas vivre. Néanmoins, je crois quand même que tu as des œuvres à ton actif. Raconte-nous quand même.
Alors effectivement, j'ai réalisé deux courts-métrages. Le premier s'appelle Boucherie.
Je le conseille.
Voilà, oui, merci. De même.
Voilà. Et puis le deuxième s'appelle 9 mètres carrés.
Je conseille.
Voilà, pas de même, voilà. Je ne l'ai pas vu.
Ah,
mais Boucherie, j'avais adoré.
Ouais. Très très bien.
Merci. Et voilà, bah, du coup, mais bon, c'est qu'après, comme je fais des thrillers psychologiques, qui là, voilà, on touche un petit peu à ma passion faits divers, du coup, c'est pas des films qui font l'unanimité, on va dire, dans les commissions. C'est quand même toujours des sujets un petit peu clivants, donc ça a été un petit peu compliqué pour trouver des financements pour les prochains, parce que j'ai beaucoup écrit des projets, mais c'est vrai que c'est un petit peu impitoyable, parce que si on passe des commissions et que on n'a pas les financements, voilà, à un moment, on est obligé de mettre le projet au placard. Donc voilà, comme ça, j'ai écrit plusieurs scénarios, mais enfin, je ne perds pas espoir. J'ai là encore un projet de court-métrage que je co-écris.
Ah, je ne savais pas ça.
Mais si, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dévoiler juste un tout petit peu de quoi ça parlerait, ou c'est trop tôt ?
Si, non, je peux dire. C'est d'ailleurs ma co-scénariste que je salue, Nolwenn Lemel, qui m'a proposé cette histoire qui me va parfaitement, enfin qui est un petit peu au milieu de nos deux univers. Et juste comme ça, pour pitcher en une phrase, je dirais qu'est-ce que tu fais quand tu es parent, quand ton enfant fait une grosse bêtise.
Ah, écoutez, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
Voilà, voilà, je n'en dirai pas plus.
Parce que c'est un moyen, un court
C'est un court-métrage, ouais.
Ok.
Ouais, je repars sur un court-métrage parce que le long, c'est trop long.
Ouais. En même temps, c'est un sacré défi sur un thème comme ça, je veux dire, parce que là, vous dites ça, forcément, on imagine mille trucs, et je me dis comment traiter là une question si fondamentale, parce qu'elle est énorme, cette question, qui a été traitée dans des bouquins, etc., dans des films, etc., je me dis, dans un cours, parce qu'un cours, il y a un temps, comment on définit le court-métrage ? Il y a un temps donné, c'est moins de temps, ou c'est...
Ah, officiellement, le court-métrage, ça va jusqu'à 59 minutes.
C'est ah ouais que,
En fait, le terme moyen-métrage qu'on utilise n'existe pas, on va dire, dans la loi. Enfin, voilà, c'est jusqu'à 59 minutes, c'est un court-métrage, et à partir d'une heure, c'est un long-métrage. Mais bon, on parle de moyen-métrage à partir de entre 30 minutes et 59 minutes. Mais en fait, ce qui détermine, je pense pas... Enfin, on sent un petit peu, je pense, quand on commence à écrire, à peu près quelle va être la durée du film. Mais là, moi, pour ce projet-là, je pense que je vais être dans les 15-20 minutes maximum. Mmh. Quoi.
Donc là, vous écrivez à deux et vous allez réaliser seul.
Exactement.
Ok. Voilà. Et en phase d'écriture, vous parlez déjà de la manière dont vous allez le réaliser ? Enfin, c'est quelque chose aussi qui se construit à deux, ou vous avez votre propre point de vue
Oui, non, ça... parce qu'en fait, c'est vrai, quand on écrit un scénario, c'est vrai que l'écriture de scénario, ça n'a rien à voir avec la littérature, puisque là où, dans la littérature, on essaye d'éveiller l'imaginaire du spectateur, là, il s'agit de vraiment donner le plus à lire les images que nous-mêmes, enfin, que le réalisateur a en tête. Mmh. Il faut qu'on sente déjà... Donc, pour donner un exemple typique, là, par exemple, on est en train de discuter. Si on ferait un plan large, on pourrait dire qu'on est à côté et qu'on est en train de discuter. Si, par exemple, je vais boire dans ma gourde. Si, par exemple,
empoisonné,
je fais un gros plan sur où ça part de la gourde, je mettrai la main de Sandy, attrape la gourde.
Ouais, voilà. Oui, d'accord.
C'est d'essayer toujours un petit peu, de autant que faire se peut, mais... de donner enfin de la mise en scène dès l'écriture.
Dès l'écriture, enfin, ouais.
C'est ce qu'on appelle l'écriture scénaristique, pour le coup, qui est vraiment un exercice particulier, comme vous dites, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire de la fiction, enfin de la littérature.
Exactement,
quoi.
Ouais. Parce que là, et puis pareil, y a, sur les sentiments intérieurs, on ne peut pas trop, enfin, il faut toujours en fait décrire ce qui se passe, ce qu'on va voir à l'image, en fait. Donc si quelqu'un, se sent pas bien, enfin, est traversé de plein d'un grand malaise, bon, ben, il va falloir représenter, de dire, des gouttes de sueur perlent sur son visage, il devient blême, enfin, voilà, d'essayer de détailler un petit peu pour...
Et la crise urticaire, comment vous la décrivez ?
Le visage rouge.
Quelle méchanceté ! Alors Sandy, moi je me pose la question à chaque fois, c'est ça que ça me passionne quand on reçoit des invités, on voit où ils en sont à un moment de leur vie, toutes les casquettes qu'ils ont, parce qu'il y a des gens qui ont effectivement plein de casquettes, et moi à chaque fois je me dis, on se revouvoie parce que là on est vieille, quand vous aviez 15 ans, comment vous imaginez votre vie et quel a été votre parcours pour arriver là ? Et en fait, est-ce que c'est ça dont vous aviez envie à cette époque-là quand vous étiez ado ?
Alors, en fait, c'est assez drôle parce que quand j'étais toute petite ou quand on veut être vétérinaire, quand on est petite fille, moi, je voulais être écrivaine déjà.
Ah ouais.
J'aimais beaucoup... mes instincts étaient assez hallucinés des rédactions que je pouvais rendre, où je faisais 7 pages, là où les gens faisaient une demi-page. Et donc c'est vrai que j'avais quand même cette envie de raconter des histoires. Après, quand j'étais au lycée, tout ça, je voulais être styliste.
Ah, ce qui vous va bien aussi.
Je rêvais de travailler pour Jean-Paul Gaultier. Quand je me suis rendu compte qu'en faisant une école qui allait coûter une fortune, j'allais finir couturière à la Redoute. J'ai un petit peu revu mon choix. Et puis en plus, il y a eu... après, j'ai toujours été assez passionnée de cinéma. Et en fait, il y avait la section art du spectacle qui avait ouvert l'année avant moi, enfin avant que l'année où j'étais en terminale, en fait, à Rennes 2. Donc, et là, j'avoue que l'enseignement entre théâtre et cinéma, et puis bon, avec une spécialisation au cinéma, m'intéressait vachement.
Ouais.
Donc, j'ai fait des études d'art
d'accord.
du spectacle.
D'accord.
Voilà. Donc, je savais assez vite. De toute façon, j'ai toujours eu envie de faire des métiers créatifs. Donc, a priori, j'étais plutôt destinée à ça.
Donc, c'est cohérent, quoi. Vous êtes resté vraiment sur ce qui vous faisait envie. Ouais, c'est chouette.
Je n'ai pas fait de la comptabilité, quoi.
Ouais.
Mais après, quand on fait un film, mine de rien.
Oui, il faut savoir compter quand même.
Il faut savoir compter.
Quand on est intermittent du spectacle.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Mine
de rien. Apparemment, ça a l'air d'être.
Oui. Il faut s'improviser, t'es comptable. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Plein de trucs.
Bien au courant des. C'est surtout que ça change. Le statut, il est en train encore de changer, non? C'est ça? Il y a encore une réforme là, qui tombe sur les intermittents, non? Ça va? Oui, c'est compliqué.
On ne sait jamais trop. Sait mais bon, en fait, nous, les intermittents, on est un peu les cheminots des chômeurs, en fait. Forcément, on milite pour nos droits. Et c'est vrai que, bon, les réformes de chômage, c'est toujours un peu c'est compliqué parce que, enfin, en vrai, le statut d'intermittent, il a été créé parce qu'à l'époque, il n'y avait que les gens qui travaillaient dans la culture qui ne travaillaient pas de façon continue. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des intermittents de l'emploi. Ouais. Et là où, en fait, on leur retire, on grappille à chaque fois un peu plus de leurs droits, que nous, on est pointé du doigt parce que, effectivement, on est privilégié d'une certaine façon par rapport à l'indemnisation. Mais en vrai, tout le monde devrait être indemnisé comme les intermittents du spectacle. Il faut se tirer vers le haut, pas vers le bas.
Tout à fait, le mieux disant. Très belle, très belle
argumentation.
Pourquoi
l'anarcho-syndicalisme n'était pas loin, en fait.
Ouais,
hein, c'est vrai comme quoi, cette référence au projet noir, tout à fait. Ok, et donc vous, dans vos courts-métrages, ce qui vous intéresse, c'est le thriller psychologique. Est-ce que ça, vous savez pourquoi? Est-ce que c'est justement ce qu'on peut écrire autour de ça qui peut être fantaisiste et en même temps original, et peut-être même, quand je dis fantaisiste, peut-être même un peu fanté, au sens faire appel à la fantaisie, enfin un peu à la... Ah, comment dire Christine Bassi, pas la science forte, pas compliqué cette question.
J'étais perdue dans mon urticaire. J'étais désolée. Pardon.
Non, mais de l'irrationnel. Ah. Voilà, oui. Parce que mine de rien, dans tout ce qui est la peur, ça fait quand même appel à des choses assez irrationnelles. Enfin, qu'est-ce qui vous attire dans ça, en fait?
Bah oui, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'objet d'une thérapie sur toute une vie. Parce que je sais pas, en fait, oui, bah, forcément, c'est lié à ma passion pour les faits divers, mais bon, c'est pareil, c'est un peu l'œuf ou la poule.
Oui.
Voilà, bon, quand j'étais petite, j'ai été très angoissée, tout ça.
Oh, voilà, j'ai eu peur, je croyais que vous alliez nous annoncer un truc terrible.
Non, pas du tout. Non, il m'est rien arrivé de. Voilà. Mais mais j'étais très, très angoissée. Et après, je ne sais pas si je me suis intéressée à tout ce qui est fait divers, psychopathes, tout ça, pour essayer de comprendre, en fait. C'est vrai que c'est vraiment ce qui me fascine, en fait, par rapport à tout ça. C'est comment des personnes, peuvent... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte? Qu'est-ce qui a été vécu dans une vie? Comment on peut s'estimer avoir le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un? Enfin, moi, c'est des trucs tellement je comprends pas, enfin voilà, donc c'est là où j'ai une certaine fascination. Et mais alors après, est-ce que effectivement de m'intéresser à ça, bah forcément je nourris mes angoisses aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que je peux regarder des émissions de faits divers ou des trucs horribles pour me détendre.
Mais vous n'êtes pas la seule, moi c'est ça qui m'inquiète.
Je sais que je parle
avec d'autres gens. Je vous propose une petite pause, le temps que cette psychothérapie analyse, oui, deux groupes se fassent, donc on a environ 3 minutes 30. Et merci Sandy pour ce choix qui va nous changer. Get the chance. You are. merci Sandy pour ce choix qui tout de suite nous fait
oui,
nous remet un peu la patate. Le soleil est de nouveau vivant. Nicoletta, pardon. Et attention, mesdames et messieurs, avant d'enchaîner avec cette passion que Christine et Sandy partagent hein, sur les faits divers. Et sachez, désolé mesdames, hein, mais j'ai plein de gens autour de moi qui sont comme vous, hein, qui se font des soirées pyjama
faites entrer l'accusé. Enfin, je veux ces amis-là, moi.
Ouais, bah, je pouvais vous les présenter. Voilà, donc vous me raconterez ça, ça me fait bien rire. Ouais. Mais en attendant, Christine, j'espère que vous n'allez pas nous reparler de l'urticaire.
Non. Enfin, écoutez, j'en fais vraiment qu'une légère mention dans cette chronique.
Vous en prie, parce qu'on ne savait pas, en fait, jusque-là, que vous souffriez vraiment silence.
Moi non plus. Cette truculente chronique s'adresse à tout parent qui aurait eu la bonne idée d'avoir fait des enfants, en gros entre 2004 et 2009. Mais cette chronique s'adresse aussi à celles et ceux qui ont eu la bonne idée de ne pas faire d'enfants. Je conseille en revanche aux parents d'enfants plus jeunes de s'éloigner de leur poste. Oui, oui, je dis poste et je vous emmerde. Pas la peine de vous mettre un stress de plus. Vous, parents d'enfants en bas âge, vous qui pensez que l'organisation d'un goûter d'anniversaire, c'est la plaie... Mes bandes de jeunes innocents, vous ne savez pas, non, vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend. Ce qui vous attend, bah, ça tient en 10 lettres. 10 lettres, les mecs. P-A-R-C-O-U-R-S-U-P. Parcoursup ! Accrochez-vous aux branches parce que vous n'êtes pas prêts. Vous savez, Parcoursup, c'est un peu comme l'accouchement. On entend dire que c'est horrible. Parfois, il y a un copain, une copine qui est passé par là, qui ose dire pudiquement « Ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, ça a été difficile, mais jamais sans trop s'étendre. » Oh non. Et puis voilà, on oublie la douleur, on fait silence. Bon, sans doute parce qu'une autre prend le relais. C'est sans doute celle de l'échec de la première année d'études supérieures et de la réorientation. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Non, revenons-en à Parcoursup qui engendre stress, tension. Ça, on le dit, on le répète. Mais stress pour qui ? Vous pensez que c'est pour les lycéens et lycéennes ? Que nenni ! Vous entendez dans mon rire sardonique les semaines qui viennent de s'écouler.
C'est génial ce rire.
Ouais, c'est pour les enfants que c'est l'enfer, bordel. Les parents que c'est le bordel. Ce sont eux qui sont sous anxiolytiques, ce sont eux qui ont des urticaires géants. Les lycéens, eux, ils continuent à réviser mollement pour leur bac, ils jouent à Fortnite et ils préparent la série de fêtes de 18 ans dans les mois qui viennent. Ah bah ça, pour organiser des cagnottes en ligne, je peux te dire qu'il y a du monde, hein. Mais apparemment, il n'y a plus de jus pour écrire la lettre de motivation. Donc Parcoursup, c'est 10 vœux, possiblement déclinables, chacun en 10 sous-vœux. C'est des dizaines de milliers de choix d'études qui s'offrent à vous. Dans une époque ancienne, en gros celle des parents des gamins qui sont sur Parcoursup cette année, on allait faire la queue à la fac de sa ville de naissance et on déposait son dossier et son chèque de frais d'inscription, c'était à peu près tout. Là aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire courir votre souris d'ordi sur une carte de France. Vous découvrez des études, des écoles, des formations que vous n'auriez jamais dû découvrir. Parcoursup, c'est avant tout ça. Hein. C'est comprendre l'outil, se l'approprier, se noyer dans le trop-plein d'informations. C'est se noyer seul, d'ailleurs, hein, sous les yeux de votre ado qui, lui, regarde son Insta sur son téléphone. Ensuite, Parcoursup, c'est un moment d'échange intense et profond avec votre jeune sur la manière dont il envisage son avenir. Ça fuse, ça confond, ça échange, questions, réponses.
Ça s'emballe.
Bang. Pour ce qui est des réponses, cochez au choix. Oui, non, je sais pas, flemme. Pas la peine. Voilà. Pour les questions, c'est bon, j'ai ma dose. Hein. Même le comique de répétition a ses limites. Parcoursup, c'est enfin la rédaction des lettres de motivation au moment où, malheureusement, votre enfant ne vous adresse plus la parole. Ce sont les lettres écrites par ChatGPT que vous lisez en masse chez vos élèves. C'est avec enthousiasme que je postule à votre formation. Je suis travailleur et je ferai tous les efforts nécessaires pour réussir dans votre formation réputée. Tout ça, c'est du véridique. Hein. Ce sont aussi les lettres écrites par les parents, parce que c'est ça, l'inégalité la plus crasse, celle dont vous vous rendez complice en réécrivant l'intégralité des lettres de motivation de votre propre progéniture. C'est le fric que ça vous coûte hein, pour simplement déposer des dossiers. C'est l'image que vous avez en mère un poil survolté qui vous fait un peu honte quand même. Parcoursup, c'est votre enfant que vous interrogez naïvement. Bah, et toi, tes copains, ils veulent faire quoi ? Et qui vous répond, bah, j'en sais rien, hein, tu sais, nos parents ils nous font déjà tellement chier qu'on n'en parle jamais entre nous. Là ? Parcoursup, enfin, ce sont ceux qui écrivent leurs lettres en dernière minute et qui se retrouvent face au serveur, qui plante 2 heures avant l'heure de clôture
prévue. Ah oui,
prévue.
J'ai vu ça.
Mais qui dépose sa lettre à 23h30 le dernier jour ? Putain, est-ce que ce sont les mêmes tarés qui arrivent 2 minutes avant le départ du train ? C'est eux ? Puis en plus, à l'heure où je vous parle, le plus dur n'est même pas passé, puisque les résultats tomberont à partir du 30 mai, que nous n'aurons là que quelques jours pour se positionner en cas de oui pour chacun des 10 vœux. Donc je vous en reparlerai sans doute. Je voulais dédicacer ma ma chronique à mon ami Pascal, qui le soir de la clôture de confirmation le 14 mars m'a envoyé un petit message à 22h30 en me disant « Allez, je check une dernière fois les vœux de mon fils », qui par conséquent m'a mis le doute et m'a donné l'instinct moi-même de me connecter et de vérifier une ultime fois le dossier de mon fils. Pour constater quoi ? Qu'il manquait juste son premier vœu, hein, qui avait été mal validé. Sachez que son réveil a été un petit peu violent. Merci donc à cette compagne de galère. Plein soutien à tous les autres. Au Laker, dans 3 mois, on sera tranquille. Ah ben non, tiens. Tiens, c'est vrai que dans 3 mois, il restera juste un petit détail. Passer le bac.
Oh là, et moi, je comprends mieux sur Tika. Hein.
Ah. Et finalement, ouais. Ça hein s'explique.
Hein. Ça s'explique pas mal. Mais... Bonjour Charlie.
Bonjour.
Bonjour Charlie.
Non, on aime bien, voilà.
Moi, je m'étais inscrite sur Minitel.
Ouais, la c'est pas vague. Vrai.
Mais non,
ouais,
mais
ouais,
bien
ouais,
sûr.
Ouais, 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 l'ancêtre d'Internet.
Oh, ouais.
Moi, j'ai des souvenirs d'avoir fait la queue avec mon dossier. Ouais, bien, c'était sympa, c'était peinard. Ouais. Tu regardes à gauche,
on
à droite.
Pas de questions,
ceux qui sont là, tiens, ils seront peut-être dans mon... avec moi dans l'amphi l'année prochaine.
Bonjour madame, je veux faire l'histoire.
Moi, ça m'angoisse rien que vous en avoir entendu parler.
Bah,
en
je
fait. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que là, je frôle l'urticaire.
Mais votre fille a 8 ans, donc normalement.
9 ans et demi.
On peut. On... Ouais, pardon.
Heureusement que je ne vous ai pas mis marraine, parce que là, si tu m'as eu un problème.
Non, on peut surtout espérer que Parcoursup d'ici là aura été aboli, bien sûr, et qu'on reviendra un système
non sélectif. Ah, bah, j'y compte bien. J'y compte bien.
Bah, on se bat
et
pour
puis,
ça.
On est, et puis, on est bien parti pour. Bah, système non sélectif.
Oui.
Hein
ouais, je trouve.
L'avenir.
Ben oui.
Il est mort le soleil.
L'espoir.
C'est vrai qu'il n'y a pas un parent qui. Enfin, c'est...
Mais non,
c'est
mais l'enfer. Hein, maintenant, il y a des coachs. Il y a des gens qui se font payer pour faire ton dossier.
Ah, mais j'aurais pu m'éviter l'urticaire. Le père de mon fils me l'avait proposé. Mmh. Je payais 200 euros et quelqu'un le faisait à notre place. Et j'ai refusé parce que d'abord, je suis syndicaliste et que j'ai une éthique. Non.
Ouais,
non.
Mais enfin, une éthique, c'est bien, mais quand on est toute rouge et gonflée, est-ce qu'on ne devrait pas la remettre en question, j'ai envie de vous dire. Il y a des moments, 200 euros, finalement.
Bon, vu comme ça, si personne peut-être ne m'écoute dans mon syndicat, écoutez,
voilà.
Ouais, bien sûr, pour la deuxième, je ferai jamais ça.
C'est clair. Ça sera à 500 boules, mais sinon, mettez de l'argent de côté dès maintenant. C'est juste scandaleux, en fait. Et moi, je savais
mais
pas que c'était payant, ces dépôts de dossier,
ça
me rend ouf.
En fait, ça dépend. Quand c'est un peu sélectif, c'est payant parce qu'ils considèrent qu'ils payent des vrais gens pour regarder les dossiers, que ce ne sont pas des algorithmes, et donc ils prennent 100 euros. Donc sachez quand même que quand une formation nous dit on a 100 places, on reçoit 2500 dossiers, vous voyez quand même la petite manne financière. Alors heureusement, les enfants qui sont, les jeunes qui sont boursiers sont exemptés, mais c'est toujours pareil. Hein. Vous savez, on pense toujours à l'effet de seuil, là, aux gamins qui sont juste au-dessus, dont les parents vont dire non, évidemment, on va pas payer juste pour un dépôt de dossier.
Les classes moyennes.
Ouais, enfin là, je dirais les classes populaires.
Oui,
en fait.
Bien sûr.
Et effectivement, c'est un outil. Non, mais je le vois. Enfin, bon, deux secondes sérieusement auprès de mes élèves qui n'ont pas la
chance.
Non,
c'est fini. Allez, hop. Je rigole.
Non, mais tout le monde aura compris ce que je voulais dire. Parlons, faites entrer l'accusé. C'est plus intéressant. Je suis d'accord.
Non, mais je rigole. Mais oui, parlons des gens qui n'ont pas de chance.
par exemple, les victimes des céréales.
Voilà.
Ah bah ça, oui.
Non,
ça,
parce que là, d'un coup, là, ça nous redonne un petit peu de... Parce que donc, comme...
Parcoursup à côté.
C'est vrai. De quoi se plaint-on ?
Faut relativiser.
Oui, on a enterré vivant dans un jardin.
Voilà, dans une cave pendant des années. Oh, écoute, finalement, un petit Parcoursup.
Oui. Ou alors, est-ce que ça ne nous mènera pas à ça ?
Ça...
C'est là, il y a peut-être un lien qui va se créer. Par contre,
Vous avez vu les drames d'Internet. Vous avez vu ce jeune mari qui a tué sa femme parce qu'il pensait vivre une folle passion avec une femme rencontrée sur Internet, mais qui en fait était ce qu'on appelle une fausse personne. C'était juste une arnaque.
Mais il a tué qui ?
Sa femme.
Sa vraie femme.
Oui, parce qu'il a vidé le compte en banque. Il a vidé le compte en banque et il était persuadé. Enfin, moi, quand j'ai vu le tweet, non, mais il y en a encore qui sont pas. Pardon.
Mais oui, bien sûr.
Voir avec ça, mais non, il a tué.
Ah, il a préféré. Tuer sa femme que de lui avouer qu'il...
Non, parce que de toute façon, il voulait vivre avec sa passion.
Sa folle passion avec cette fausse personne.
Ah, donc dans tous les cas, il l'aurait tué.
Ah bah...
En tout cas... Notre analyse d'experte nous fait dire que tout est permis. Mais
Et vous savez que dans son village où il travaillait au service des espaces verts, tout le monde le trouvait très gentil.
Très gentil.
Mais oui,
jamais on n'aurait pensé.
Jamais.
Et
jamais.
Très amoureux avec sa femme.
Et c'était très amoureux.
Mais pourquoi il l'a tué ? Je ne comprends pas en fait.
Mais parce qu'il voulait être libre d'aller, au lieu de divorcer comme aurait fait tout le monde, c'est vrai. Et lui, il a préféré tuer sa femme. Mais combien on en a dans l'histoire du fait divers ? L'adversaire, enfin on peut lister, on en aura. Comme vous dites, 12 saisons de fait entrer l'accusé. C'est très souvent parce qu'on n'ose pas avouer ses mensonges à son conjoint ou sa conjointe.
Et oui.
On préfère tuer.
Très bien, ok.
Donc, très bien, ça, non.
Du
non,
coup, bah, moi. Aussi, hein, on y est, bah, Jean-Claude Roman, effectivement.
Oh, alors là, on dit, on vous accueille, alors bim, rebondissement hier, quoi. Deux nouvelles investigations. Dans l'affaire du pont de Ligonnès.
On en a parlé dans le train. On s'est enfin, on ne se connaît pas, mais.
On s'est à tout hasard, on se sommes croisés.
Et vous n'avez pas du pont de Ligonnès.
Et bing.
Et voilà, c'est en s'envoyant un message pour confirmer le rendez-vous qu'on s'est rendu compte qu'on était juste.
Je crains que vous soyez quand même déçus du résultat. Parce que...
Ouais, j'y crois pas. Non, mais moi, j'ai dit, je ne m'enflamme pas sur cette piste de la communauté religieuse dans le Doubs. On nous l'a fait mille fois. Et il a quand même un physique, c'est monsieur tout le monde.
Donc, c'est là où il est fort, par contre. C'est là où il y a une chance.
Là, il n'a pas de chance d'avoir la tête de monsieur tout le monde. Perso, on me retrouverait tout de suite avec mon urticaire.
Donc, ne commettez pas un meurtre maintenant.
Bah, pas en ce moment.
Ah non, pas en ce moment, pas s'il vous plaît. Hein. Ouais. Avant, après, mais pas maintenant.
Ouais. Et vous, ça vous intéresse pas les faits divers,
Mélanie ? Si, ça m'intéresse, mais rarement ça va me passionner en fait, parce que je. Souvent, j'analyse ça comme des gens un peu. bon, je sais pas, je vois pas le mal là, derrière ça en fait.
Okay, donc vous n'avez aucun argument. On peut pas parler.
Je vois pas le mal.
Non, mais je me dis, en fait, c'est juste un pétage de plomb, comme tout à chacun. Ah, en fait, je vois pas le maléfique.
Attention.
Non, mais je sais qu'il y en a que c'est horrible.
Il y a le crime passionnel.
comme on disait avant.
Ouais, vous regardez pas assez fait entrer l'accusé.
Non, il y en a.
Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont machiavéliques.
Ah oui,
il y a du psychopathe. Hein,
Et je dirais que c'est les plus intéressants.
Ah bah oui.
Ah bah là, c'est. Voilà. Oui, là,
nous,
c'est...
en tant que c'est vrai que psychothérapeute d'émission, criminologue, médecin, détective, on peut vous le dire quoi. Il y a vraiment voilà.
Et alors choses. Donc, du coup, je vais vous demander à chacune votre top 5 des meilleurs faits divers.
Waouh.
Ah de enfin,
celui
faits
qui... bah, en tout cas alors, celui qui vous fait encore
faits divers ou psychopathe.
Les psychopathes, Sandy, vous êtes vraiment une spécialiste. Vous pouvez nous faire un.
Oui.
Vous pouvez
nous. Voilà, mais non, mais en faits divers.
Ou psychopathe, moi je prends tout.
Je trouve que moi le fait divers qui est quand même absolument fascinant parce que je ne sais pas si on arrivera à savoir la vérité un jour. Mais enfin, c'est quand même le petit Grégory. On est quand même.
Ouais. Moi, j'ai compris qu'ils étaient. Mais
Moi, j'ai ma théorie aussi. Ouais. Hein, Christine, nous avons déjà changé de sujet.
Et vous avez la même ?
Bon, normalement, oui.
Oui, je pense.
Mais par contre, on n'en parlera pas.
Non, on ne peut pas.
Non, bien
diffamation.
Sûr. La personne se reconnaît.
Oui, diffamation de la mémoire des morts.
Je pense qu'on n'est pas les seuls, de toute façon, à avoir cette théorie. Mais Dupont de Ligonnès aussi, c'est quand même...
Ça nous a tenu un été, ça.
Oh là là, ça, oui. On ne se connaît pas.
On ne se connaît pas, mais je pense que cet été-là, on était chacun.
Vous étiez connectés, quoi, par cette affaire.
Society,
café qui a été acheté, mais à l'époque, c'était dingue. En fait, tout le monde cherchait ce Society.
Mais il avait été réédité dans l'été, ils avaient ressorti...
Ils en ont fait un livre.
Donc on est là. Ça, c'est pour les faits divers, en psychopathe.
Et celui qui avait disparu en bateau, là
Il est mort.
Ah, on l'a retrouvé.
On a retrouvé les ossements. Docteur Godard.
Docteur Godard.
Qui a un peu la même histoire que Jean-Claude Roman, d'ailleurs.
Il avait une double vie.
Il a tué sa femme.
Oui.
Ah oui.
Et ses enfants.
Par la force des choses dans le bateau.
Ah oui, il n'était pas forcé, si.
Non.
D'accord.
Mais c'est pour ça que c'est ça qui est assez fascinant dans ces faits divers-là, par rapport à Dupont de Ligonnès. Enfin bon, après, moi personnellement, ma conviction est qu'il est quand même toujours vivant.
Ah
mais,
ouais.
Parce que justement, énorme. Souvent, quand ils font ça, Christine, vous me direz, mais c'est qu'ils se suicident. Enfin voilà, dans la foulée en fait. Et que là, que le mec ait fait une cavale pendant plusieurs jours pour disparaître pile quand on retrouve les corps.
Ouais.
C'est quand même. Moi, je le vois pas aller se tirer une balle.
Oui. Pourquoi aller faire
de la France,
l'autre bout de la France après avoir si. Enfin,
après avoir retiré 20 euros.
C'est ça. C'est
surtout 20 euros. Surtout 20 euros.
Non, mais c'est ça. Donc ça, c'est ce côté un petit peu fascinant de cette affaire.
Ok, donc on a deux.
Je disais en psychopathe. Bon, moi, celui qui m'a toujours un peu plus fasciné, c'est Ed Kemper.
Ah oui, on en avait déjà. Enfin, on se connaît pas, mais j'en ai déjà entendu parler.
Je crois que je sais pas si on va être très crédible en fait dans ce qu'on dit avant de dire qu'on se connaît pas.
Alors moi je connais pas Ed Kemper.
Alors Ed Kemper, c'est donc un serial killer américain qui a sévi dans les années 70, qui est toujours vivant d'ailleurs à ma connaissance, et qui finalement a été un des premiers tueurs en série qu'on a pu étudier. Bah d'ailleurs vous avez vu la série Mindhunter, il y a d'ailleurs son personnage parce que en fait quand il a été arrêté, ça a été pile au moment où il y a a eu l'abolition de la peine de mort en Californie. Donc, ce qui fait qu'il a été donc emprisonné à vie. Alors, avec le cumul des peines, il a 8000 ans d'années de prison. Et donc, voilà, donc, c'est le premier qu'on a pu étudier. Alors, lui, en fait, mais bon, alors attention, parce que là, attention, gloquerie.
Éloigner les enfants voilà, du poste.
Voilà, avec avertissement sur ce que je vais dire. Voilà, donc c'était... un tueur en série qui tuait des étudiantes dans le campus où travaillait sa mère. Bon, bah, parce qu'après, comme tout tueur en série se respecte, le problème à la maman, voilà, ça c'est
toujours la faute de la mère.
Et il n'y avait pas Parcoursup à l'époque. Non. Donc, je crains le pire désormais.
Bon, après, apparemment, dans son parcours, sa mère, bon, il avait des sœurs aussi, donc s'occupait très bien de ses sœurs. Par contre, lui, il dormait à la cave avec les rats. Enfin bon, il était très mal traité. Et en fait, il se trouve qu'il avait, à 14 ans, en fait, il avait tué ses grands-parents.
D'accord.
Parce qu'en fait, sa mère l'avait envoyé vivre chez ses grands-parents et tout, ses grands-parents paternels, je crois. Et en fait, sa grand-mère étant aussi très autoritaire, alors qu'il s'entendait très bien avec son grand-père, en fait, il a tué sa grand-mère parce qu'il la supportait plus. Mmh. Et en fait, quand son grand-père est revenu, bah, du coup, il a tué son grand-père parce qu'il s'est dit, mais mince, comment il va réagir quand il va voir que
j'ai... Il va pas être content. Il va pas être content. Voilà. Papy.
Et donc là, il avait déjà été incarcéré. En plus, je crois qu'il y a un truc où il avait été déjà un peu dans une prison pour adultes ou quelque chose comme ça. Parce que en fait, il se trouve... Alors, en plus, c'est un grand gars qui mesurait plus de 2 mètres, mais il a 147 de QI ou quelque chose comme
ça.
Voilà, et donc en fait, quand il est sorti de prison, donc à sa majorité, aux 21 ans, et donc comme il était très intelligent, donc pour ne plus avoir de casier, en fait, pour pas que ça apparaisse, il a dû consulter des psys et tout ça, machin, pour pouvoir donc pouvoir acheter des armes, mais en même temps qu'il commençait sa série de meurtres. Voilà, des étudiantes. Ah ouais. Et ça a fini que... Alors, je vous passe les détails vraiment extrêmement glauques. Mmh. Mais donc, il a fini par tuer sa mère. Mais alors, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Ah oui, parce que quand même, son, comme il y a toujours une...
Oui,
le
son
modus
rituel.
Operandi,
ouais,
et puis
son,
voilà,
oui,
les petits trophées. Donc lui, bon, bah, il coupait les têtes, il les enterrait sous la fenêtre de sa mère en disant « Maman, les gens te regardent ». Et donc, bon, bah, évidemment, il a fait le même traitement à sa mère. Enfin, bon, bref, c'est vraiment hyper glauque. Et en plus, il était copain avec les flics qui enquêtaient sur lui.
Oh.
Donc, quand il s'est rendu, personne ne le croyait. Et tout ça, enfin bon, bref, ça a été toute une grosse affaire. Enfin,
voilà, bah, c'est comme dans Sombre, quand même, le mec du Nord. Là. Moi, ça, par contre.
Très belle série.
Excellente série, oui.
Bah ouais, et puis non, mais ce côté aussi où le monsieur tout le monde est copain avec tout le monde, en fait.
Ah bah, c'est ça.
Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est plutôt c'est ce côté-là qui pourrait m'interpeller et qui est fascinant, c'est de se dire comment on a toujours cette idée un peu, évidemment, ce cliché de se dire de toute façon, ça ne peut pas être mon voisin, comme on dit tout à l'heure. Ah, mais on comprend pas, il était vraiment gentil. Mais alors que, bah, voilà.
Si un psychopathe avait une tête de psychopathe, ça se saurait, quoi.
Bah oui,
voilà,
surtout...
Non, mais c'est ça, on voit toujours un peu l'image d'un monstre, tout ça, alors qu'en fait, c'est souvent...
Bon, après, il
voilà,
y en a dont on voit la tête, on se dit...
Il y en a quand le physique de
lui, par contre.
Francis Saulme,
voilà, ouais, effectivement, quand même.
C'est quand même l'image absolue.
Bon, lui, on se dit, ok,
voilà,
il n'y a pas de nulle part.
C'est vrai qu'on peut changer de trottoir, si on le croit.
Ouais, c'est sûr.
Mais bon, pas que, enfin voilà, et puis c'est souvent, justement, c'est là où c'est leur grande force, c'est que ce sont des gens très insérés, voilà. Il y en a un aussi, Gérard Schaeffer, il était flic, hein, en fait.
Ah ouais.
Bah oui. Et puis il y a même le personnage là dans le film La prochaine fois je viserai le cœur.
Ah oui.
Je pensais à lui avec Canet,
ouais.
Voilà,
qui était flic, qui était gendarme.
Aussi, gendarme. Ouais.
Et puis il est disparu de Montmenon, il était militaire.
Oui, ouais, c'est.
Et celui de.
Ah non, c'est lequel... Si, il y en a un qui aussi qui était flic, qui a fait...
Oui, qui a fait un jeu télévisé avec Nagui.
Ah oui, j'ai vu ça l'autre jour. Oui, le grêlé. Il n'était pas flic, lui.
Il était violeur. Si, il a été flic.
Il a été flic.
Ah ouais, donc quand même, il y a un truc, quoi.
Alors, nous vous laisserons la responsabilité de vous dire.
Je blague.
On connaît les règles.
Non, mais ils ont des armes. C'est vrai qu'ils ont accès aux armes.
Oui, enfin, le côté des arbres, approcher du glauque. Enfin, forcément, sans dire évidemment que tous les flics machin, mais forcément, c'est comme entre guillemets les pédophiles qui vont bosser dans les des trucs où il y a des mômes. Enfin, ça paraît ça a du sens quand même. C'est-à-dire que je vais aller dans les métiers de la loi où j'impose un pouvoir grâce à mon arme, et puis je vais au sein même du mal entre guillemets. Quoi.
Moi, c'est ma limite. Ouais, je suis passionnée de faits divers comme Sandy. Ma limite, c'est dès qu'il y a des...
Alors, les enfants.
Quand ils sont morts, je dirais que... Mais bon, ça y est, j'ai fait le deuil. Par contre, quand on raconte, tu vois, des trucs de maltraitance de gamins...
Ah non, mais c'est ça.
La pédophilie aussi, tout ça, moi aussi, c'est ma limite.
C'est vraiment des trucs... C'est des faits entrés accusés que je ne peux pas voir. Comme j'ai, par exemple, celui que j'ai eu le plus de mal à supporter, c'est celui de... Alors, bon, évidemment, du trou, ça, c'est innommable. Et puis, celui avec les 4 gamines qui étaient parties dans un un carnaval là, dans le nord de la France et qui avait été pris en stop par les frères Jourdain ou je sais pas quoi là. Ils ont tué les quatre là. Bon, c'était horrible dans un bon.
Bienvenue dans les filles de Jean-Paul Sartre.
Ouais, faut pas nous lancer.
Voilà. Oui, non, voilà, on pourrait. Là, ça dure combien de temps? 3 heures l'émission.
Est-ce que des émissions style Faites entrer l'accusé, ça pour vous c'était comme des révélations? C'était génial, vous l'attendiez? Ou c'est ces émissions-là qui aussi génèrent quand même un sort d'appétence pour ça? Parce que avant il y avait quoi, Détective? Enfin, comment s'informait sur ces faits divers?
Il y avait à la radio.
Il y avait Pierre Bellemare. Voilà, c'est vrai que Pierre Bellemare était précurseur quand même là-dessus.
Non, puis il y avait des trucs, il y avait des chroniques, enfin je sais pas, des trucs un peu inspirés de, aidez-moi ce réalisateur, de Hitchcock, comme ça, il y avait un truc, c'était, vous savez pas, Claude Cabrol racontait des histoires, comme ça, Chabrol, pardon, Claude Chabrol racontait des... c'est pas le bon. C'est Claude Chabrol.
Claude Cabrol, peut-être.
Qui racontait comme ça des histoires, des espèces de faits divers, un peu. Bon, enfin, voilà, je pense que ça a toujours. La fascination.
C'est comme avec Laurent Cabrol.
Oui, c'est ça. La fascination du fait divers, à mon avis, a toujours existé. Et oui. C'est vrai que, après, l'époque est très fixée sur les faits divers. Alors, bon, je connais quelqu'un qui disait les faits divers font diversion. C'est pas faux aussi, tant qu'on s'intéresse à ça.
Ah, bah, bien sûr.
Mais pour moi, s'intéresser à ça ne dédouane pas de s'intéresser à autre chose. Et on peut s'intéresser à ça et s'intéresser à la société dans laquelle on vit. Enfin, c'est pas contradictoire.
Est-ce que le fait divers est un fait social? Quelle serait ma question?
On a combien? Allez-y, Sandy.
Vous avez 3 heures.
Non, enfin, le psychopathe, en gros. Enfin, quand on dit le fait divers, au sens celui-ci, quoi. Des crimes en série, des serial killers, etc.
Bah, je pense qu'il y a des trucs, quand même, ça interroge un peu. Enfin, moi, par exemple, là, bon, bah, comme c'est un petit peu aussi lié au court-métrage là, que j'écris, je sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ou si c'est parce que ça se produit plus, mais je suis quand même assez effarée du jeune âge, de plus en plus, des ados, des jeunes ados. Qui vont très très loin. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de plus en plus, je trouve. Il y a même carrément, bon pardon, parce que justement, c'est vrai qu'on parle de Faites entrer l'accusé, mais il y a plein d'autres émissions comme ça.
Ah ouais.
Et il y en a même une qui est carrément dédiée, qui s'appelle Adolescents et criminels.
Je ne connais pas celle-là.
Ah, bah, écoute, sur RMC Story, voilà. Bon, mais c'est donc que des faits divers sur des adolescents. Et c'est effarant, en fait. Enfin, donc je sais pas si c'est un truc voilà sociétal lié à tout ce désœuvrement de la jeunesse, hein, et je ne les blâme pas parce que c'est vrai que c'est pas évident pour eux, mais en tout cas ça pose question en fait sur cette violence, je trouve, qui démarre de plus en plus jeune et qui peut être vraiment très violente.
Peut-être ce sont les enfants des parents qui regardaient beaucoup Faites entrer l'accusé.
Je crois que c'est assez sain d'affronter n'est-ce pas Christine?
Merci.
Voilà, faut affronter ses peurs, ses angoisses, il faut en parler.
C'est le genre de passion qu'on ne transmet pas à ses enfants.
C'est typiquement en famille.
Ah non, c'est vraiment
pas des soirées télé.
C'est un truc un peu honteux, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc.
Oh, j'ai pas honte, hein, en vrai.
Moi, quand il y a un de mes enfants qui rentre dans la pièce, si je regarde ce type d'émission, clairement je zappe.
Ah d'accord.
Ah non, je veux pas qu'il voit ce genre de choses. Enfin voilà,
je comprends.
Voilà, je veux pas être le vecteur de leur montrer le pire de l'humanité, en fait, parce que c'est un peu ça quand même. Donc, non,
c'est beau ce que
ils
vous
le
dites.
Découvriront bien.
Oh, bien assez rapidement, bien sûr. Laissons-leur leur innocence.
Oui, moi, mes parents sont pas du tout fans de faits divers non plus.
Ça ne se transmet pas. C'est pas génétique.
Non, c'est chacun avec soi.
Très bien, merci beaucoup, mesdames. C'était.
Je sais pas si ça vous a éclairé sur.
si, non, je me demande, en fait, pourquoi on n'est pas fasciné? Paradoxalement, parce que c'est fascinant. Donc pourquoi d'un coup on n'est pas tous
Tout à coup vous dites
non, je culpabilise pas, on n'est pas là, mais je me dis effectivement c'est fascinant. Pourquoi ça va pas plus loin d'un coup? Parce que moi je pense que c'est un truc où je veux pas voir en fait. Je veux pas le savoir. Savoir en fait. Ça me
vite
fait comme ça pour en rire, mais après les détails ça me fait quand même.
Vous êtes peut-être trop sensible.
Moi je pense que je suis trop sensible, trop innocente surtout.
Voilà. Je pense qu'il faut avoir une grande force.
Trop jeune pour tout ça.
Sûrement.
Merci. Ben on a. Alors, est-ce qu'on peut voir vos anciens courts-métrages?
Ah, oui, c'est ça la question que je voulais poser.
Oui. Alors, enfin, non. Non, mais. Enfin, ils étaient visibles, mais plus parce que le. Enfin, mais bon, faudrait que je les remette. Je vais les mettre sur YouTube, voilà. Je pense. Là, ils sont.
Ah, bah là, je pense que suite à la diffusion de cette émission, voilà, il va falloir.
Ça,
hein.
Nous, on mettra sur notre page, enfin, sur tous nos réseaux.
Surtout. Oui, parce que chaque émission, on dit qu'on va la mettre sur la page de l'émission qu'on n'anime pas encore. Mais ça viendra.
On va la créer, cette page.
Voilà.
C'est notre défi. Alors, on n'a plus notre réalisatrice. Elle a fait tomber ses lunettes. Je ne vous entends plus. J'ai pété mes lunettes.
Je suis revenue.
Est-ce que c'est pas le moment, est-ce que je me permets hein, de vous introduire, est-ce que c'est pas le moment de mettre la musique? Ah non, c'est votre chronique.
Mais oui, tout à fait, votre revue de presse.
J'ai pas le conducteur, excusez-moi. Oh la revue de presse de Mélanie, bien sûr.
Voudrait faire croire qu'on est presque libre, un faux ou un tox, le vrai du faux, on décède dans nos syntaxes. Je crois qu'on nous roule là. Ça sent la couille, ça magouille dans cette presse libre.
J'ai eu envie pour cette revue de presse de vous faire plaisir et je dois vous avouer, Sandy, qu'avec vous, c'était facile. Beaucoup plus qu'avec notre dernier invité, Mathieu, souvenez-vous, notre fameux croque-mort maître de cérémonie au crématorium, car peu de magazines sont dédiés à la mort. Mais trouver dans la presse des articles sur les faits divers, le monde du spectacle et des médias, le tout relié, bah, franchement, c'était assez facile et surtout ces derniers temps. Alors non, je ne reprendrai pas la longue liste des femmes et quelques hommes harcelés, agressés, violentés dans le monde du spectacle, car ce ne sont pas des faits divers, mais un fait de société, un systémisme quoi. Donc ça, on n'en parle pas. J'ai préféré vraiment rigoler. Comme par exemple, alors je suis pas dans le glauque, hein, parce que bon, je pense qu'on a une autre dose. Moi, ce que j'ai adoré ces derniers temps, c'est l'histoire de l'arsenal trouvé chez Alain Delon. Alors moi j'adore cette histoire. Pour cela, j'ai préféré me renseigner à la source dans le fameux magazine Le Chasseur français. Dans un article du 2 mars, je cite sa fille Anouchka Delon. Elle expliquait justement quelques jours avant la saisie, donc vous savez quand même ce qui a été trouvé chez lui, hein.
Non.
Je vous dis, 72 armes de catégorie A, B, C et 3000 cartouches et un stand de tir.
Oui.
Or, il n'avait aucune autorisation.
Ah.
Donc elle a expliqué justement, donc avant cette descente de police dans le magazine Elle, qu'elle se rendrait toujours avec son garde du corps au sein de la propriété de son père, hein, en France là. Et elle parle donc de cet entretien, de la passion de son père pour les armes à feu. Et ajoutant qu'il en a toute une collection. Et dans cette relation tumultueuse qu'elle entretient avec ses frères, vous avez dû suivre les procès, puis le procès, puis
sûr,
blablabla, elle rajoute que ses frères, quand ils sont donc dans cette maison de famille à Douchy, se baladent armés dans la maison, se croyant au Far West. Sympa l'ambiance familiale. Et je pense que le fait divers n'est pas loin.
Oui.
Alors, ou encore cette histoire absolument horrible, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dont le réalisateur Sean Duncan vient de faire un film et qui est sorti là début mars, fin février, début mars. Il dresse le portrait de la famille Von Erich des Américains. Alors, pas Von Erich, hein, Erich, E-R-I-C-H. Pardon. Qui a marqué un périr seul, en fait. Ça n'a
ah
rien
oui,
à
ça voir. Y est, je viens de comprendre. Si, si, drôle. Drôle.
Ah, Von Erich, non, pas du tout. Von Erich. Eric, on aurait dû dire, je ne sais pas. Eric. Qui a marqué l'histoire du catch dans les années 80. Oui. Alors, je vous la fais courte, cette histoire, elle est géniale. Donc, c'est cette famille. Le père, donc, c'est Fritz. La mère, c'est Doris. Ils ont eu 6 fils. Jack Junior, bien sûr. Kevin, David, Kerry, Mike et Chris. Encore. Décidément. Et donc, le père était célèbre catcheur, mais très frustré parce qu'il n'est pas devenu une star mondiale, contrairement à plusieurs de ses fils. Et donc, parmi ses 6 enfants, 5 sont morts avant leurs parents, 3 se sont suicidés. Et selon le réalisateur du film qui s'appelle Iron Claw, c'est AW, je ne sais pas comment on dit, le destin des frères est si sombre qu'il a préféré effacer le scénario du Benjamin, l'histoire du Benjamin, qui lui-même s'est tiré une balle dans la tête à 21 ans. Donc il dit que c'était une tragédie de plus que le film ne pouvait pas vraiment supporter. Donc je ne sais pas si vous avez lu cet article,
oui.
Enfin les différents articles, mais c'est juste hallucinant cette histoire. Cette histoire est folle parce qu'il n'y a pas un qui va bien dans cette famille, sauf celui qui a quitté par amour tout le champ familial, enfin tout le camp familial pour une histoire passionnelle d'amour et qui a arrêté le catch malgré tout ça. Et son père, donc ce père absolument horrible, autoritaire, la mère complètement tournée dans la religion, mettait donc en concurrence ses propres fils, allant jusqu'à tous s'auto-détruire. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin quand même du serial killer. Hein. Je pense que c'est même plus fort.
Et de Parcoursup.
Psychopathe et de Parcoursup. Parce qu'on met ses enfants en concurrence sur Parcoursup. Exactement, Christine. Et pour finir, donc, c'est loin du serial killer, mais pour moi, c'est quand même du bon fait divers. C'est ma perle venue du sud de la France. Depuis il y a quand même quelques jours maintenant, c'est l'histoire du maire de Agde, cette bourgade qu'on connaissait avant pour ses camps naturistes. Et désormais, on le connaîtra pour son fameux maire Gilles de Torre et de l'astrologue. Donc, dans un article de Elle du 22 mars, Elle nous résume l'histoire. Donc depuis 2020 quand même, hein, ça fait quand même 4 ans, là, Gilou, il correspond avec une guérisseuse de 44 ans, qui est auto-entrepreneuse et qui se, détermine, qui se présente comme voyante, médium, astrologue. Il la rencontre, c'est un peu une sorte de coup de foudre, a priori amical, hein, enfin de reconnaissance. Et je m'aperçois qu'on finalement peut vite se reconvertir. Car elle a pu faire croire au maire républicain de cette ville, hein, de quand même 30 000 habitants, qui est aussi président de l'agglomération d'Agde, elle lui a fait croire qu'il pouvait parler avec un être surnaturel provenant de l'au-delà. Et pour cela, tout simplement, elle passait des coups de fil et elle changeait sa voix, je pense, grâce à un logiciel. Donc, il y a des articles où on l'appelle la voyante ventriloque. Ce que j'adore, parce qu'au téléphone, t'as pas besoin d'être ventriloque. J'adore ce titre.
Bah oui, Jean-Marc.
J'ai la nana qui s'est obligée au téléphone d'être ventriloque. C'est quand même génial. Et donc, je pense qu'elle utilise un logiciel pour transformer sa voix, un petit accessoire là, et qui devient alors rauque, masculine. Et posé. Et donc, on remarquera que même dans l'au-delà, c'est encore un mec qui parle, bien sûr. Et donc, là où c'est quand même génial, c'est que cette grosse voix rauque, posée, venant de très, 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 très loin, qu'est-ce qu'elle lui disait au maire ? Elle lui disait « Prends bien soin du bien-être matériel de cette médium. » C'est quand même génial. Le mec, il s'est quand même fait avoir, mais plus qu'avoir. Hein. Et elle,
le message était clair,
elle est quand même géniale, parce qu'elle a réussi à obtenir l'embauche de 5 personnes de sa famille ou de ses proches au sein de la commune d'Agde ou de l'agglomération, et son mari est quand même devenu directeur technique de la ville d'Agde, du service technique de la ville d'Agde. Donc c'est quand même génial.
Ouais. Embauche Titi aux espaces verts.
Il y a une carrière pour vous, Christine.
Ah ouais.
Oh, moi, pauvre Gilou, il me fait pitié. Et puis, bien sûr, dans la rue, les gens disaient « Oh là là, bah non, on n'aurait jamais cru. Il est si bon maire. Mais comment ça se fait ? Mais nanana. » Et bah, voilà,
il a démissionné ou pas ?
Bah là, il est accusé de corruption, détournement de fonds, etc. etc. Elle aussi, ils ont été en prison. Je crois que lui, il a obtenu, le fait de pouvoir sortir jusqu'à son procès. Bon, ça a été encore des rebondissements. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il a réussi à croire les enquêteurs. Ouais. Qu'une fois avoir vu une vidéo où on la voit se transformer la voix. Sinon, il ne pouvait pas croire qu'elle n'était ni médium, ni en contact avec l'au-delà pour avoir du boulot pour sa famille. Donc, c'est quand même génial.
Je regarde Sandy, c'est un sujet de film. Hein.
Ah
on
non, mais là, c'est
hein.
Extraordinaire.
Bah, mais même pas, parce que ça, c'est même pas crédible dans un film.
Mais en fait, exactement.
Et ça, c'est là où on te dit, bah non, c'est pas possible.
Et là,
c'est...
on dit la fameuse phrase. La réalité
des pasteurs. Ah oui,
et merci, voilà, merci, mais exactement.
Merci. Et je pense qu'on s'est dit, ouais.
Donc merci Gilles, désolé parce que franchement ça doit pas être facile à vivre après ça quoi. La crédibilité elle est dure.
Shame on you.
Shame on you Gilou et bravo elle parce que franchement c'est une bonne arnaqueuse. Moi je trouve. Pas.
Mais d'ailleurs on peut moi je garde l'idée hein parce
ah
que
ouais
bah écoutez, je vais tenter un truc hein.
C'est vrai, quand
là,
on postule à des boulots.
À la radio, bah oui. Donc, hein? Là, tu viens de l'annoncer à la radio. Donc,
ah mince.
Ouais, j'espère, mais elle va transformer bien,
j'espère qu'il y a
bien
des gens en France qui ne vont pas avoir écouté l'émission.
En même temps, j'ai hâte d'entendre ta voix de ventriloque. Hein.
Ah ben, j'en ai plusieurs. Hein.
Ça fait longtemps que je m'essaie. Je vais vous dire que. Voilà, c'est fini.
C'était déjà
une petite... Ouais, je sais, mais des fois, il faut mieux court et intense, quoi.
Ah ouais, non, c'était fort.
Voilà,
hein.
C'était fort.
Ouais, c'était fort.
Et les amis, je vous annonce que ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble.
Oh my God.
Oh my God, ça passe toujours vite.
Je savais que ça passerait vite,
ça passe toujours trop vite.
Bah ouais.
Hein, Jean-Yves. On aimerait 1h30 l'année prochaine.
Bah, non, je pense que c'est le minimum.
Oui, peut-être une journée.
Oui.
Bah, les 24 heures de la radio.
Bah, vous savez que c'est une idée qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps déjà. Hein,
c'est vrai. On pourrait se lancer. Voilà. Ça serait génial.
Quand on aura un petit peu de temps libre devant nous. On pourra réfléchir à ce projet fou.
Oui. Enfin, ouais. Peut-être d'abord soigner ce petit urticaire. On en parlera. Trop de stress
ça
après.
Hein.
Merci beaucoup, Sandy.
Merci à vous. Hein. J'étais ravie de partager ce moment.
Vous avez été parfait.
Ouais, merci, c'était super. Merci. Petit jingle de fin. Salut, à bientôt, dans le mois prochain.
Alors, j'espère, j'avais la sensation.